VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 8 octobre 2019 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le bilan de la récente attaque de camps militaires est maintenant de 40 soldats maliens tués.
Au Niger, deux militaires nigériens tués et cinq autres blessés dans une attaque terroriste près d'un village du département de Dogon Douchi.
En Guinée, l'opposition a appelé hier à la mobilisation contre un troisième mandat du président Alpha Condé.
En Algérie, les ONG de défense des droits fondamentaux dénoncent les poursuites contre des journalistes et militaires écroués pour des posts sur Internet.
Le président américain Donald Trump met en garde la Turquie contre tout excès alors que l'on craint une offensive d'Ankara contre les alliés kurdes en Syrie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, alourdissement du bilan de la récente attaque contre le camp de Boulkessi dans le centre du pays. On estime maintenant à 40 le nombre de militaires maliens tués après la découverte des corps de deux autres soldats. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Camp Fort 11 de Boulkessi, dans les ratissages de son périmètre immédiat, hier, les corps de deux soldats maliens morts ont été découverts, ce qui porte à 40 le nombre de militaires tués. Ils ont été inhumés sur place. Avant ces ratissages de la force spéciale, la libération du camp de Boulkessi a été possible grâce à une coordination des efforts entre les FAMA et les forces étrangères. Général Abdramane Babi, chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre.
Et dire que dans le cadre de notre action de lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes, l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, nous allons continuer à travailler ensemble pour effectivement neutraliser les groupes terroristes sur le territoire. Les opérations vont se poursuivre dans le cadre de l'opération Dambé pour rechercher les ennemis par rapport à des endroits d'intérêt qui sont déjà identifiés et qui sont en cours.
Les opérations continuent. L'armée malienne a l'intention de rester à Boulkessi et faire tout pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires. Il est à signaler que les FAMA ont essuyé leur plus grande perte depuis des années dans les deux attaques menées par des djihadistes le 30 septembre et le 1er octobre à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière de Burkina Faso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et au Niger, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier que deux militaires nigériens ont été tués et cinq autres blessés dimanche dans une attaque terroriste près d'un village du département de Dogon Douchi dans le sud-ouest du pays. C'est la deuxième attaque du genre survenue dans cette zone de Dogon Douchi qui était jusqu'ici épargnée par les raids djihadistes.
En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, a appelé à manifester à partir du 14 octobre contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Des détails avec Bagassi Koura.
Dans une déclaration publiée hier à l'issue d'une réunion extraordinaire, le FNDC s'est réjoui, je cite, de n'avoir pas pris part à la mascarade déguisée sous le label de consultation qui n'était qu'une nouvelle manœuvre dilatoire destinée à servir d'alibi pour légitimer le processus de coup d'État constitutionnel entrepris par le pouvoir guinéen. Fin de citation. Dans ce texte, il lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens à partir du 14 octobre à travers des manifestations républicaines. Alpha Condé, dont le deuxième mandat s'achève en octobre 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique, deux maximum en Guinée. Début septembre, il a chargé son premier ministre Ibrahim Kassori Fofana de conduire des consultations sur une possible révision de la Constitution qui ont été boycottées par les principaux partis d'opposition. Depuis New York, à la fin septembre, le président Condé a appelé les Guinéens à se, je cite, « préparer à un référendum et des élections », mais n'a rien dit sur son éventuelle candidature.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré hier qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'est de son pays, en proie à l'insécurité des groupes armés depuis 25 ans. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays, a déclaré M. Tshisekedi lors d'un rassemblement public à Bukavu dans le sud Kivu. De retour d'un séjour de près de 3 semaines à l'étranger, le président congolais doit inaugurer ce mardi un laboratoire de transformation des produits agricoles près de Bukavu.
En Algérie, la justice multiplie les poursuites contre des journalistes et des militants du mouvement de contestation, ce que dénoncent des ONG citoyennes et de défense des droits de l'homme. Les précisions d'Irène et Herman Ungbo.
Journaliste indépendant et militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Boudour a comparu hier devant le parquet d'Oran à l'ouest d'Alger pour un écrit sur Facebook. 5 militants du rassemblement Action Jeunesse ont été placés dimanche en détention provisoire, a dénoncé Abdelhab Fersaoui, président de cette association citoyenne. Ils sont inculpés d'incitation à attroupement et d'atteinte à l'intégrité et l'unité du territoire, passible de 10 ans de prison, a-t-il précisé. Mais pour la défense, le dossier est vide, c'est un procès purement politique. Selon un de leurs avocats, Maître Abdallah Kamela, les 5 militants ont été arrêtés vendredi dans un café après la 33e manifestation hebdomadaire d'affilée. Pour Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la justice distribue les chefs d'inculpation à tort et à travers sur la base d'interprétation. Le parquet d'Alger a quant à lui soutenu que les dossiers traités ne sont pas d'ordre politique et qu'aucun détenu politique n'est incarcéré dans sa juridiction.
Ajoutons que Saïd Boudour, journaliste indépendant et militant de la Ligue algérienne des droits de l'homme, a été remis en liberté provisoire lundi en fin de journée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les élus démocrates impliqués dans l'enquête en vue d'une mise en accusation du président américain ont demandé hier au Pentagone et aux responsables budgétaires de la Maison-Blanche de leur livrer des documents concernant l'affaire ukrainienne. De son côté, le président Donald Trump continue de qualifier cette nouvelle enquête de chasse aux sorcières. Le point avec Jacques Aristide.
Les présidents démocrates des trois commissions qui enquêtent à la Chambre des représentants indiquent dans un communiqué que ces documents qu'ils veulent recevoir d'ici le 15 octobre prochain sont nécessaires pour connaître les raisons de la décision de la Maison-Blanche de suspendre une aide militaire pour l'Ukraine. L'opposition démocrate accuse le président américain d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour des informations ayant trait au Biden. Quant au président Trump, il maintient qu'il avait l'obligation d'examiner toute corruption possible ou probable pour justifier les demandes adressées à l'Ukraine, mais aussi à la Chine, pour qu'elles enquêtent sur Joe Biden et sur son fils Hunter, qui a fait des affaires dans ces deux pays. Le locataire de la Maison-Blanche a également accusé la chef de file démocrate Nancy Pelosi de trahison. Les trois commissions parlementaires prévoient de mener de nouvelles auditions à partir de ce mardi.
Autre controverse à Washington, le président Trump a lancé hier une sévère mise en garde à la Turquie contre tout excès, tout en annonçant un retrait des troupes américaines déployées en Syrie près de la frontière turque, ce qui ouvre pour Ankara la possibilité de mener une action militaire contre les Kurdes qui ont combattu les djihadistes du groupe État islamique aux côtés des forces américaines.
Monsieur Trump a écrit dans un tweet que s'il estime, je cite, dans sa grande et inégalable sagesse que les Turcs ont fait quelque chose qui dépasse les bornes, il détruira et anéantira complètement l'économie de la Turquie. Fin de citation. Les alliés républicains du président américain ont pour leur part exprimé leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme un futur abandon des combattants kurdes.
En Irak, le président Bahram Saleh a appelé hier à cesser l'escalade après 6 jours de manifestations et de violences qui ont fait une centaine de morts. L'armée a admis un usage excessif de la force dans un quartier de Bagdad. Le mouvement de contestation a commencé le 1er octobre à Bagdad et dans des villes du sud pour réclamer emploi, services publics et dénoncer la corruption. Plus de 100 personnes ont été tuées, en grande majorité des manifestants, et plus de 6 000 blessés, selon un dernier bilan officiel.
L'administration Trump a placé hier sur la liste noire 28 agences et compagnies chinoises en raison de violations des droits de l'homme dont Pékin est accusé concernant les Ouïghours et autres minorités musulmanes en Chine. Les entités visées se voient privées de la possibilité d'acheter, sans autorisation du gouvernement américain, des pièces et composants de haute technologie auprès des compagnies américaines. Les États-Unis ne peuvent pas tolérer et ne toléreront pas la suppression brutale des minorités ethniques à travers la Chine, a exprimé dans un communiqué Wilbur Ross, secrétaire américain au commerce. Pékin dément ces accusations, disant ne cibler, je cite, que les extrémistes musulmans.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement malien vise une récolte d'un peu plus de 8000 tonnes de coton pour la campagne 2019-2020, ce qui devrait en faire le premier producteur en Afrique devant le Burkina Faso. Le Mali, principal producteur de coton africain, devrait aussi augmenter sa production à 1 million de tonnes par an d'ici 2 à 3 ans. Le pays envisage de nouvelles variétés de coton pour améliorer les rendements, mais il ne veut pas recourir aux variétés de coton génétiquement modifiées à cause de leur mauvaise qualité. Le déficit commercial du Maroc s'est creusé de 2,4% pour s'établir à 140 milliards de dirhams au cours des 8 premiers mois de 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Selon l'autorité marocaine de contrôle des changes, les importations ont augmenté de 2,9%. Les exportations, composées principalement de produits agricoles, de voitures et de phosphates, ont atteint 188 milliards de dirhams en hausse de 3,2%. Les envois de fonds des Marocains résidant à l'étranger ont diminué de 1,3%, tandis que les investissements directs étrangers ont diminué de 30,4%. Pour terminer, la compagnie nationale aérienne ougandaise a reçu du constructeur canadien Bombardier deux avions de transport de passagers, doublant ainsi la taille de sa flotte. Uganda Airlines envisage d'étendre ses destinations à Kinshasa, Zanzibar, Lusaka, Asmara, Hargeisa, Djibouti et Addis Abeba.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Silvinho écarté de son poste d'entraîneur à Lyon.
L'OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Silvinho, annonce un communiqué du club rhodanien qui reste sur une série de 7 matchs sans victoire en championnat de France, dernière défaite en date dimanche dans le derby à Saint-Étienne 1-0. Lyon n'a qu'un point d'avance sur le duo de dernier du classement Dijon, qui doit recevoir l'Olympique lyonnais le 19 octobre pour la prochaine journée de championnat. Et Metz, Silvinho est arrivé à Lyon, nommé par Juninho en juin dernier pour succéder à Bruno Genesio. Après une pré-saison décevante, l'Olympique lyonnais a débuté la Ligue 1 avec deux larges victoires contre Monaco, 3-0 puis Angers 6-0. Mais il a ensuite enchaîné une série de 7 matchs sans victoire, 4 défaites et 3 nuls. L'entraînement sera assuré par Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho.
Rien de vraiment grave pour Mohamed Salah.
Sorti sur blessure en fin de match contre Leicester samedi, l'attaquant égyptien de Liverpool souffre d'une foulure de la cheville. Mo Salah a été touché par une intervention du milieu de terrain des Foxes, Hamza Choudhury, dans le temps additionnel du match de championnat remporté par les Reds 2-1. Salah était sorti en boitant et le diagnostic des médecins a révélé une foulure de la cheville. Salah pourrait donc être remis pour le match contre Manchester United le 20 octobre. Il était de toute façon prévu qu'il ne participe pas au match amical de l'Égypte contre le Botswana le 14 octobre prochain pour se reposer.
Les demi-finales du tournoi de l'UFOA commencent ce soir.
La compétition entre dans sa course finale et offre un bouillant Sénégal-Mali. Dans le tableau du tournoi de consolation, ils sont également à l'étape des demi-finales avec le Cap-Vert opposé ce soir à la Gambie. Demain, le choc de la seconde demi-finale mettra aux prises le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et chez les éliminés, la Guinée et le Libéria croiseront les crampons.
Rugby avec la Coupe du Monde au Japon, l'Afrique du Sud affronte le Canada ce soir.
Les Sud-Africains auront quasiment assuré leur place pour les quarts de finale s'ils battent les Canadiens. Sauf improbable retournement de situation, la poule B est déjà décidée. Les All Blacks néo-zélandais, double tenant du titre, tombeur des box d'entrée, devraient prendre la première place devant l'Afrique du Sud, qui validerait ce scénario avec un succès bonifié devant le Canada. Sur le papier, le match semble déséquilibré. Les Nord-Américains n'ont inscrit qu'un seul essai depuis le début du mondial lors de la défaite devant l'Italie 48-7. Ils ont ensuite pris une leçon face aux All Blacks 63-0. Le sélectionneur des box a effectué 13 changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Italie, histoire de mettre au repos certains cadres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya a amorcé une détente. La plus importante recommandation du récent Grand Dialogue National est la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones, leur concédant un peu plus d'autonomie politique et financière. M. Biya a également ordonné la remise en liberté des principaux responsables de l'opposition, dont Maurice Kamto. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je crois que le président, libérant ses prisonniers politiques et proposant un dialogue, je crois qu'il a décidé qu'il ne peut pas gagner par la force des armes. Il ne peut pas vaincre les séparatistes ou les autres anglophones. Donc ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, je crois qu'en libérant M. Kamto, qui est francophone, il a reconnu qu'il y a des francophones qui sont marginalisés, juste comme les anglophones. Et s'il continue sur la même route, il risque d'avoir le même problème dans les régions francophones qu'il a dans les régions anglophones.
Les réactions n'ont pas tardé. Washington salue une étape constructive vers la réduction des tensions politiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui encouragé le Cameroun à continuer à adopter davantage de mesures de confiance et de réconciliation. C'est ce qu'il va faire d'après vous?
Oh, j'espère. Oui, non, je crois qu'il a décidé qu'il faut continuer sur cette route vers la paix, parce qu'autrement, il sera en grande difficulté. Il risque d'avoir des grosses difficultés dans le pays francophone autant que dans le pays anglophone. Et je crois qu'il cherche un médiateur maintenant. Je crois qu'il y a des Suisses qui ont proposé. À mon avis, les États-Unis sont en meilleure position pour être neutres et donner une médiation.
La plus importante recommandation du Grand Dialogue National concerne le statut spécial pour les deux régions anglophones. Concrètement, ce statut, que va-t-il changer dans ces régions et va-t-il dénouer le conflit meurtrier qui sévit depuis deux ans?
Avant 1972, les régions anglophones étaient 90% indépendantes. Ils avaient leur parlement, ils avaient beaucoup de choses. La seule chose qu'ils partageaient avec Yaoundé, c'était l'armée, la monnaie, la défense, etc. Et ils ont voté pour ça en 1962, sous le mandat des Nations Unies. Quand Yaoundé a fait un référendum pour écraser cette situation, il était illégal, à mon avis. À mon avis, la meilleure solution, c'est de retourner à la fédération qui existait avant 1972.
Mais les indépendantistes, eux, rejettent catégoriquement ces conclusions et parlent d'enfumage. Que va-t-il se passer d'après vous?
Oh, je crois qu'ils ne sont pas en majorité. Ils font beaucoup de bruit, je le comprends, mais ils ne sont pas en majorité. Et ils ne réfléchissent pas. Qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes indépendants? Est-ce qu'on va payer la défense? Yaoundé ne va pas nous défendre. Est-ce que nous aurons assez d'argent pour tous les bénéfices que la population a besoin? Donc, il faut réfléchir. Ils n'auront pas le pétrole qui est dans la mer à côté. Ils n'auront pas ça. Il ne faut pas se faire des illusions. Donc, je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est viable d'être indépendant? Je crois qu'ils vont décider que ce n'est pas viable. Et il faut penser à une solution ensemble, rester ensemble avec les francophones, mais avec une certaine autonomie.
L'ancien diplomate américain Herman Cohen, joint ici à Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'ambassade des États-Unis au Togo soutient le financement de 17 projets communautaires pour un coût de 35 millions de francs CFA. Cette contribution a été accordée dans le cadre du programme d'auto-assistance visant à répondre aux besoins urgents des communautés pour un développement local harmonieux. Les détails avec Kayu Lawson à Lomé.
Que ce soit l'équipement, la construction des infrastructures sanitaires et scolaires ou l'achat du matériel de transformation de produits agricoles, le programme Self-Help de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique met à la disposition des communautés de petits financements qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. À Kolor-Hilibwe, à environ 50 km au nord de Lomé, le manque de moulins de maïs dans la localité constitue un facteur favorisant la déscolarisation des filles. Kwame Kpogo, natif de Hilibwe.
Dans le milieu de Hilibwe, nous avons un problème de moulins. Donc les femmes sont obligées de se déplacer dans le village de Kolor à 3 km. Ce qui crée des problèmes, surtout pour les jeunes filles. Ce qui entraîne aussi des fois la déscolarisation, puisque la fille est obligée d'aider sa maman pour aller écraser le maïs. Et elle revient en retard et va à l'école. Des fois, il y a certaines filles qui abandonnent à cause de ça.
Pour permettre aux filles d'avoir les mêmes chances que les garçons, un projet d'érection de moulin a été monté et qui a bénéficié d'une enveloppe d'1 800 000 francs CFA. Afi Djoudi explique ce que ce moulin peut changer dans la communauté de Hilibwe.
Un moulin avantagerait nos jeunes filles à aller régulièrement à l'école. Parce que des fois, s'il n'y a pas de farine à la maison, nos fillettes sont obligées d'aller au moulin et toute la matinée, ils restent à la maison.
Le programme Self-Help tient aussi compte des minorités, notamment les personnes en situation de handicap. La coopérative La Semence Divine, qui produit du riz à Kovier à une trentaine de kilomètres de Lomé, va pouvoir étendre son exploitation grâce à l'appui américain. Et Sobiou Aouli de cette coopérative.
On a beaucoup de difficultés, tant pour la main-d'œuvre que pour le traitement. Une fois récolté du riz. Donc, l'appui qu'on a demandé consistait à acheter plus d'équipements.
Aujourd'hui, le programme Self-Help ne finance plus que des projets sociaux. Il vient aussi en appui aux jeunes entreprises à caractère social, comme l'affirme l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, Eric Strohmayer.
Ce sont les petites initiatives d'entrepreneuriat qui ont besoin d'avoir quelque chose pour les démarrer. Et alors, si nous, on peut fournir ces petites choses avec la main-d'œuvre et la capacité de l'entrepreneuriat togolaise, c'est l'avenir du pays qu'on essaie d'établir. Ce sont les petites choses qui avancent l'économie, qui avancent les avenirs des jeunes à travers le pays, qui peut mener à la croissance économique dont on veut voir ici dans le pays.
Depuis ces deux dernières décennies, ce sont plus de 400 projets qui ont été financés par le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur. Des projets qui encouragent l'amélioration des conditions de vie des populations à la base sur le plan de l'économie, de l'éducation, de la santé et du bien-être social. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Sénégal, les cas de noyade dans la banlieue de Dakar, la capitale, sont toujours aussi fréquents et les jeunes sont les plus exposés à ces drames. Entre juillet et septembre 2018, 56 jeunes ont perdu la vie selon les chiffres des sapeurs-pompiers, tandis que cette année, les noyades se multiplient au même rythme. Une situation alarmante qui persiste malgré certaines mesures prises par les autorités. Sédina Abagué est allée à la rencontre des riverains à Dakar, qui sont généralement les premiers à découvrir les corps.
De la plage des Parcelles à celle de Guédiouaï, en passant par Golfe, Malika et Bessayaou, le littoral qui longe la banlieue de Dakar enregistre de nombreux cas de noyade durant les grandes vacances. Une situation que les riverains vivent avec désarroi. Alassane Faye a assisté à plusieurs repêchages de corps et il estime que les mesures de sécurité doivent être renforcées à tous les niveaux.
En vérité, c'est très grave ce qui se passe. C'est vraiment une zone très dangereuse où les noyades sont très récurrentes et la baignade très risquée. Bon, je pense que les mesures à prendre en ce qui concerne les familles, c'est de retenir les enfants de moins de 15 ans, même 18 ans, pourquoi pas, parce qu'on a remarqué que seuls ces enfants-là sont victimes de noyades ici. Je pense que les mesures à prendre sont d'ordre familial d'abord.
Pour ce riverain ayant requis l'anonymat, les parents sont les principaux responsables car ils laissent des enfants innocents aller à la plage sans contrôle.
Moi, c'est les parents qui ne surveillent plus les enfants. Parfois, ils sont très nombreux à passer par ici pour aller à la plage. Et généralement, ils n'ont même pas 10 ans. Actuellement, l'éducation des enfants manque énormément. Et personne ne respecte personne. Et les enfants n'écoutent plus.
Les autorités ne peuvent pas assurer la surveillance de toutes les plages. C'est l'avis de Djibril Diouf. Pour lui, les parents doivent davantage assurer l'éducation de leurs enfants et veiller à leur sécurité.
Si chacun s'occupait convenablement de ses enfants, avec des recommandations précises, il n'y aurait pas de problème. Les autorités ne peuvent pas tout faire. Avant de les indexer, moi je pense que les parents sont les premiers responsables, car ils ne surveillent plus les enfants. Avec un simple contrôle des parents, l'autorité n'aura rien à faire, parce que l'enfant est déjà bien éduqué et n'osera même pas aller dans les plages.
Entre 2015 et 2018, 1023 jeunes ont perdu la vie dans les plages. Des chiffres officiels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Sénégal qui montrent l'ampleur des cas de noyade malgré les mesures prises par les autorités, avec notamment la présence massive des maîtres nageurs et sauveteurs. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dans le nord-est du Nigeria, 112 écolières enlevées par les islamistes à Chibok il y a 5 ans et demi ne sont toujours pas retrouvées. Les activistes du mouvement Bring Back Our Girls, qui se bat pour leur libération, ont marqué pendant le week-end ces 2000 jours de captivité des jeunes filles pour attirer à nouveau l'attention des autorités fédérales. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ils étaient plus d'une centaine d'activistes et certains parents des écolières réunis à la place de l'unité à Abuja pour réclamer une fois de plus la libération des 112 filles. Les combattants de Boko Haram avaient pris d'assaut l'école secondaire publique pour filles à Chibok dans l'état de Borno le 14 avril 2014. Plus de 200 filles sont enlevées, mais 57 des filles se sont échappées et ont retrouvé leur chemin à la maison. Le gouvernement fédéral a ensuite négocié avec les ravisseurs qui ont libéré 107 filles, laissant 112 autres en captivité il y a de cela plus de 2000 jours. Depuis, les écolières sont devenues le symbole des victimes de l'insurrection de Boko qui ravage le nord-est du Nigeria. Pour marquer les 2000 jours de captivité, les activistes du groupe Bring Back Our Girls, créé pour lutter pour la libération des écolières, ont exposé plus de 112 paires de chaussures portant les noms des écolières disparues. Florence Ozo est membre du groupe.
Le travail du gouvernement est de protéger et de sécuriser ses citoyens lorsque des incidents pareils se produisent. Et le travail des citoyens est de rassurer que le gouvernement n'oublie pas son travail. Et c'est ce que nous faisons.
Les parents des 112 écolières du Chibok déplorent que le gouvernement fédéral n'ait pas réussi à libérer les filles enlevées il y a plus de 5 ans. Tunde Adebiju est venu exprimer sa préoccupation.
2000 jours, cela fait 5 années et 6 mois que les filles ont été enlevées. Cet enlèvement signifie qu'il y a eu de sérieuses défaillances. 112 filles, si ces filles étaient des filles d'un gouverneur, par exemple, ou d'un haut cadre du cabinet ministériel, toutes les agences de sécurité seraient mobilisées pour les retrouver. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que leurs parents sont pauvres que vous n'allez rien faire.
Certains parents des écolières portés disparus ne sont plus en vie. D'autres sont malades et certains sont traumatisés par l'absence de leurs enfants. Le président nigérian Muhammadu Buhari a toujours déclaré que le gouvernement restait mobilisé pour parvenir à leur libération. Mais les parents attendent encore de voir la promesse du gouvernement se réaliser. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur ce qui est désormais connu aux États-Unis comme l'affaire ukrainienne. Une affaire qui domine le débat politique américain. Les adversaires démocrates de Donald Trump enquêtent en vue d'une mise en accusation du président républicain qui lui parle d'une nouvelle chasse sorcière après l'enquête russe. Que pensez-vous de l'affaire ukrainienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h15.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais tous les soirs pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.